go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Entre les pages. Aujourd'hui, Entre les pages et Bulles et Phylactères, Ligne Claire ou École franco-belge. Aujourd'hui, Entre les pages et Manga ou Comics. Aujourd'hui, Entre les pages et 9e art et Mauvais genre. Aujourd'hui, Entre les pages et tout simplement BD. Et qui mieux que Jean Hainaut pour nous en parler, puisque Jean Hainaut est le président du festival Angers BD, qui va tenir sa 24e cuvée, comme ils disent, les 9 et 10 décembre prochains. On l'imagine, à peine quelques semaines de l'événement, la pression doit commencer et monter quand on est prêt de fêter son quart de siècle. Bonjour Jean Hainaut.
Bonjour.
Vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Bien. Vous êtes le président du festival Angers BD.
Exactement, oui, depuis 3 ans maintenant.
Bien. La bande dessinée, c'est arrivé quand et comment chez vous ?
Alors, moi, j'ai baigné dedans depuis tout petit avec des lectures, on va dire, de jeunesse de beaucoup de monde, c'est-à-dire Astérix et Obélix, Tintin, etc., et puis des lectures familiales. Et j'ai eu l'occasion d'entrer dans l'association Angers BD quand je suis arrivé étudiant sur Angers et quand un de mes enseignants m'a dit bah dis donc t'as l'air d'aimer la bande dessinée, est-ce que ça te dirait pas de faire partie de l'aventure? Je lui ai mettait dans le festival et donc il m'a initié à l'association et à l'organisation de cet événement.
Alors vous savez que quand on donne ses goûts et son démarrage en lecture de BD, ça vous classe générationnellement, hein, généralement.
Hein. oui, tout à fait. Oui, alors moi je viens juste d'avoir 30 ans, donc c'est vrai qu'Astérix Obélix, Tintin, ça peut être notre génération, mais moi ça avait vraiment été des lectures de jeunesse, et puis après je suis parti assez vite sur la science-fiction, sillage, des choses un peu plus classiques de ma génération, les langues feu, ce genre de choses. Avec vraiment, j'avais pas d'univers défini, j'aime tout lire et j'étais un grand lecteur de romans d'abord. Et la BD c'est venu naturellement parce que voilà, l'illustration est toujours, j'aime beaucoup voir l'image, ce que les gens ont voulu mettre dans le scénario. Sur un roman, on est frustré de s'imaginer des choses, de ne pas savoir comment ils se représentent. Alors que la BD, ben, on voit comment ils représentent aussi ce qu'ils ont imaginé.
Mais alors aujourd'hui, vous nous avez parlé un peu de ce qui vous a constitué. Aujourd'hui, c'est que vous êtes attiré par quelle forme de bande dessinée ?
Alors plutôt la bande dessinée, on va dire indépendante, les petits labels, l'édition 619, Comics Initiative, ce genre de structures qui ont la particularité de faire en général des one-shots, des tomes en un seul volume, avec souvent des bouquins assez épais, assez denses. Avec moi, ce que j'aime bien, c'est justement quand une maison d'édition ne propose pas que le même genre, pas que de la BD franco-belge ou pas que de la science-fiction, mais vraiment la particularité de pouvoir parcourir des styles très différents. C'est vraiment des lectures très éclectiques. Vous verrez ma bibliothèque, c'est il y en a pour tous les goûts. Et moi, j'aime vraiment découvrir surtout de la nouveauté. Et des jeunes auteurs, des gens qui sont pas encore connus, ou alors chez certaines maisons d'édition, ce que j'aime bien aussi, c'est quand ils vont chercher des auteurs qui sont étrangers, qui sont pas connus en France, qu'on nous a peut-être de la visiter dans leur propre pays, mais qui ont besoin aussi d'avoir un nouveau public, et ça permet d'avoir un autre style de découvrir des auteurs américains, d'Europe de l'Est, d'Angleterre, etc., qu'on connaît pas forcément habituellement dans la BD franco-belge.
Et votre dernière belle découverte, c'est quoi ?
Alors, ma dernière belle découverte, ça a été... c'est un manga... c'est un manga, ma dernière belle découverte. Donc, c'est une bande dessinée, hein, comme tout. C'est La Théorie du Chaos. La Théorie du Chaos, là, le nom de l'auteur m'échappe. C'est un français, pourtant. Je le retrouverai dans l'interview, ça va revenir.
D'accord.
Ça, c'est le manga. Et sinon, la bande dessinée, la dernière, qui m'a vraiment fait une belle claque, c'est Yojimbo, qui est sur des samouraïs, des robots dans un pays un peu dévasté dans les années futures. Et le deuxième tome est sorti cette année. Et c'est vraiment je trouve visuellement et au niveau scénaristique, une belle bande dessinée. Un petit document aussi en termes de. Enfin, c'est pas la même conception graphique qu'à 45 pages classiques. Donc, c'est vraiment quelque chose une belle aventure à lire.
Déjà 24 éditions hein, pour le festival Angers BD. Il n'y a pas d'usure là pour un festival comme Angers BD après 24 éditions.
Alors, c'est comme tout. Hein. On a des personnes. Il y a le renouvellement des bénévoles derrière le festival. On a encore des personnes parmi les premiers de l'équipe qui ont créé le festival qui sont toujours là. Mais globalement, on a quand même, on va dire 90% de 109. Hein. Et on essaye de renouveler, d'avoir toujours de nouvelles personnes qui nous rejoignent pour justement qu'il n'y ait pas cette usure-là. On a peut-être un train-train quotidien de choses qu'on a l'habitude à faire. Et cette année et l'année dernière aussi, on essaye de sortir un peu de nos sentiers battus en proposant justement de nouvelles choses au cours de l'année, pas que pendant le festival qui est sur un week-end précis, des partenariats de sociétés locales avec d'autres lieux pour faire des expositions, histoire de sortir un peu de nos chemins connus et puis aller voir... faire ce pour quoi on travaille, c'est-à-dire faire vivre la BD partout et tout le monde.
Il y a une question que moi je me pose depuis que je suis arrivé en Anjou, parce que je suis néo-angevin, enfin depuis que quelques années, mais c'est encore assez récent. Et moi, il y a une question que je me pose, il y a une situation que je trouve un peu surprenante dans ce territoire-là, parce que ça semble être une pépinière foisonnante. Si on parle un peu, si on cite comme ça quelques noms, bien sûr, on est obligé de citer Étienne Davodo, mais aussi Pascal Rabatet, Gwen de Botteval, TM et l'atelier Kawa, Olivier Supiot, Boris Besoin, ouais. Tony Emeriot, Éric Jussézac, et je ne veux pas oublier non plus Marc-Antoine Mathieu, Pauline Caster ou Mathilde d'Alençon. Comment ça s'explique, cette efflorescence d'auteurs comme ça qui quand même ont pignon sur rue?
Alors là, je suis un néo-angevin aussi. Hein. Moi, ça fait quelques années que je suis à Angers, donc je ne saurais pas expliquer tout l'historique. Ce que je sais, c'est qu'il y a toujours eu un territoire, il y a toujours eu en Anjou un territoire très culturel, avec beaucoup d'ouverture à la culture, justement, et aux arts en général, avec des écoles, les beaux-arts, des écoles artistiques. Et on a aussi, quand même depuis une vingtaine d'années, des structures comme l'atelier Kawa, comme la boutique L2, des groupes d'auteurs qui se sont regroupés, qui se sont constitués et qui ont permis aussi de faire émerger des jeunes talents, de faire avancer des carrières pour certains et de se faire connaître aussi en collectif. Et on a l'ADN aussi du collectif un petit peu en mémoire, donc je pense que ça joue aussi dans le parcours de ces auteurs de BD. Et merci de les avoir cités parce que vous avez cité une grande partie des auteurs angevins invités cette année, donc c'est parfait, c'est déjà fait.
C'est parce que j'ai peut-être fait mon travail.
Exactement.
Le travail est bien fait. Le festival d'Angers, hein, on comprend bien qu'il cherche pas à rivaliser avec les événements aussi importants que ceux d'Angoulême ou Quai des Bulles à Saint-Malo, mais des manifestations de cette taille qui sont un peu plus petites, parce que voilà, c'est pas faire un affront au festival Angers BD que de dire qu'il est un peu plus petit. Est-ce qu'elles ont vraiment leur pertinence dans le paysage national?
Eh ben, quand on voit qu'on a 2000 visiteurs, je pense que oui, on a de la pertinence quand même sur un festival de cette taille-là. Il y a une particularité en GBD, c'est qu'on est peut-être, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais on est, si ce n'est le plus gros, en tout cas un des plus gros festivals de BD, 100% bénévole. On n'a aucune personne qui est rémunérée ou qui est permanente pour travailler là-dessus. C'est que des bénévoles qui font plus à l'année. Et donc, avec un plateau d'une quarantaine d'auteurs et 2000 visiteurs, on fait partie des plus gros festivals de ce niveau-là au niveau national. Au niveau régional, c'est sûr qu'on est le premier. Et donc, on a le fait qu'on soit toujours là depuis 24 ans et que le succès, le public ne continue de revenir, le succès ne se dément pas et qu'on a des demandes régulières, des positions de partenariat. Je pense que ça montre qu'on a encore au contraire besoin aussi de BD dans les territoires et pas que à Saint-Malo et pas que à Angoulême.
Bon, j'ai pas cherché à vous vexer, hein, bien sûr.
Pas du tout, ça me vexe pas. On est bien sûr, on n'est pas sur la même. On n'a aucune ambition de faire un Angoulême bis, un Saint-Malo bis. C'est pas ce qui nous recherche non plus. Et on a la particularité en Angers d'être connu pour un festival familial, agréable, où les auteurs sont bien reçus. Je dis pas que c'est pas le cas ailleurs, mais on a vraiment ce côté très petit comité et qu'on cherche aussi à la garder dans ce festival.
Mais aussi peut-être que la qualité d'un festival de cette dimension, c'est que c'est l'espace idéal pour la découverte et pour les jeunes auteurs.
Exactement, oui, c'est ça, tout à fait. On a aussi dans ce festival qu'on va avoir l'occasion de rencontrer des auteurs particuliers. On a, nous, sur GBD, la particularité aussi de délivrer un prix. On remet un prix, oui, tous les ans, qui est le prix Première Bulle. Donc cette année en partenariat avec Edonis, qui est une structure qui nous accompagne pour le financement de ce prix. Et donc, ce prix Première Bulle, il a la particularité d'une... Et là, j'ai un doute sur le nombre d'éditions, ça fait au moins 10 ans, complète Première Bulle. On remet un prix à un auteur pour sa première bande dessinée. Donc, soit un scénariste, coloriste, illustrateur seul, ce qui est rarement le cas puisqu'il y en a plusieurs, soit en tout cas un dessinateur pour qui c'est la première bande dessinée. Et l'idée, c'est de lui donner la visibilité sur l'événement et l'année suivante, de le faire revenir pour une exposition qu'on lui consacre pour donner encore de la visibilité sur ces jeunes auteurs. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion pour nous de découvrir nous-mêmes des jeunes auteurs et d'en faire découvrir à notre public.
Alors moi je regardais effectivement cette sélection Première Bulle, donc il y a 8 albums hein, qui ont été mis en sélection hein, pour ce festival.
Exactement. Oui,
on trouve vraiment des genres, alors ça va dans toutes les directions de la bande dessinée, il y a de la science-fiction, on frôle un peu l'érotisme sur l'une d'entre elles. Il y a une BD qui m'a paru assez surprenante, c'est une BD qui est publiée chez West France, qui s'appelle Pêcheur d'Islande et qui rappelle diablement un double album de Macchio qui s'appelait L'Islandais et qui semble traiter effectivement le même sujet, c'est-à-dire c'est Terre-Neuve qui partait pêcher la morue à Terre-Neuve. Donc ce prix Première Bulle, donc qui est-ce qui, alors il y a un jury, le jury il est composé de qui pour ce jury Première Bulle?
Alors le jury Première Bulle est composé de 8 personnes. Alors le chiffre exact n'est pas figé dans le marbre, je vous explique comment ça fonctionne. En fait, on a toujours 2 représentants de l'association GBD, qui sont des gens qui ont un peu de bouteille, qui connaissent bien la bande dessinée, parce que l'association est ouverte à tout le monde. Quelqu'un qui s'initie à la bande dessinée peut nous rejoindre. Mais pour le prix, on demande à quelqu'un d'avoir vraiment de la bouteille et de pouvoir maîtriser les genres de la bande dessinée. Donc 2 membres de l'association. On a 2 auteurs locaux, Éric Judézac et Loïc Jombard, qui sont des auteurs en main, voilà, qui font partie du prix pour la vision aussi de l'auteur. On a notre partenaire libraire du festival qui a changé au fil des années. Cette année, c'est Cultura qui est avec nous depuis l'année dernière. Donc, on a 2 représentants de Cultura. Et on a aussi un représentant de West France pour représenter les médias et deux représentants, de notre partenaire, le partenaire qui finance ce prix, qui est Edonis, qui est une entreprise autour du vin.
Donc,
l'idée, c'est de faire un jury, si vous voulez, très... qui représente les différents aspects de l'association et des gens qui structurent cette association, et surtout qui permettent de ne pas avoir que des aficionados ou que des personnes qui sont très éloignées de la bande dessinée. On a un peu de tout, et ça permet justement d'avoir cette sélection très éclectique avec des propositions variées et des votes qui sont souvent très mouvementés, avec des discussions, des débats sur est-ce qu'on juge la patte de l'auteur, est-ce qu'on juge le scénario, comment on travaille, comment on va évaluer tout ça. On a des critères assez précis qui permettent d'avoir après un vote. Souvent, les 2 premiers c'est compliqué de départager un lauréat.
Mais pour qu'il y ait jury et pour qu'il y ait vote du jury, il faut qu'il y ait une sélection. Comment s'opère cette sélection?
Alors, la sélection, elle est essentiellement faite par 2 ou 3 personnes au sein de l'association qui sont des personnes qui sont celles qui vont faire la recherche de nos auteurs pour le festival, qui sont aussi les plus gros lecteurs de l'association, hein, qui vont juste simplement dire, on a vu toutes les sorties. On a la particularité qu'on recherche essentiellement des nouveaux arrivants dans le secteur de la BD, donc vraiment des auteurs où c'est la première fois. Donc ça limite déjà le choix de la sélection, puisque c'est quand même pas très, très nombreux sur le paysage en ce moment. Et donc ça permet d'avoir une petite sélection déjà. Ensuite, il y a des choses qui sont vues. Et l'idée, c'est toujours de favoriser quand même la diversité des profils, comme vous disiez, des histoires, des scénarios, des dessins, pour qu'on ait vraiment, qu'on donne la chance à tout le monde et qu'on permette aussi au jury de s'essayer à plein de styles différents et de choisir des bandes dessinées très diverses.
Alors, donc en plus du prix Première Bulle, vous avez parlé d'exposition, il y a des expositions, il y a donc nécessairement l'exposition du prix Première Bulle de l'année dernière. C'était qui?
Exactement.
C'était qui?
C'était Maïlis Colombier pour Les Songes du Roi Griffu.
Donc là, on
est une bande dessinée. Voilà, exactement. Il y aura l'exposition cette année sur le festival pendant 2 jours, donc le 9 et 10 décembre. Et donc, il y aura l'exposition de plusieurs planches de Maïlis Colombier. Elle sera présente également pour pouvoir échanger sur son album. Et il y aura une visite commentée de son exposition également. Le dimanche matin, c'est une étape d'étude. Voilà.
Alors, il y a aussi une expérience que moi, je trouve tout à fait passionnante dans ce festival. C'est le prix des bibliothécaires du Maine-et-Loire.
Oui.
Et ça, c'est une expérience que je trouve vraiment intéressante d'avoir mobilisé les bibliothécaires du Maine-et-Loire. Alors, j'imagine que vous travaillez, que ça s'est fait avec le Bibliopôle.
Oui, tout à fait. C'est eux, en fait, qui ont leur propre prix, hein, le Bibliopôle, donc qui fédère les bibliothèques du Maine-et-Loire et du département, travaillent depuis plusieurs années ensemble, ont déjà un prix. Et en fait, ça fait quelques temps qu'on s'est dit, bah, c'est l'occasion sur le festival de pouvoir raccrocher ce prix-là, lui donner de la visibilité, donner un espace pour faire connaître ces auteurs-là. Et donc, les bibliothèques nous fournissent la liste des auteurs qui sont en lice. Nous, on se charge d'en inviter, en fonction de notre budget et des possibilités, des plannings de chacun. On invite une partie de ces auteurs-là, tout comme pour le prix Préambule. Et à l'occasion de l'inauguration le samedi midi, on fait la remise de ce prix. Donc, les bibliothécaires sont présents en partie de l'équipe. Et il y a une remise des prix. Donc, le bibliothèque remet un prix jeunesse et un prix adulte. Enfin, nous, nous n'en mettons qu'un seul prix qui est une première BD.
Alors, on ne l'a pas dit, mais le prix Première Bulle, il a quoi comme récompense ?
Alors, la récompense du prix Première Bulle, c'est une dotation de 500 euros, comme le prix jeunesse et le prix adulte du Bibliopôle.
Mmh. Il y a toujours votre action, là, qui est aussi assez surprenante, la demande que vous faites aux dessinateurs de faire des étiquettes de bouteilles de vin ?
Exactement, c'est une autre particularité, c'est peut-être la marque de fabrique la plus claire du festival NGBD. Au début, c'était carrément les vignerons qui venaient sur le stand, sur le festival, vendre leur vin. Maintenant, c'est nous qui le faisons en propre.
Mm-hmm.
Vous alliez rebondir.
Non, j'allais rebondir, j'allais rajouter la phrase à consommer avec modération, bien évidemment.
Oui,
parce
bien
que
sûr.
C'est ce qu'on est obligé évidemment. De dire quand on parle d'alcool. Donc, ce sont les auteurs qui sont invités au festival, qui sont contributeurs de ces étiquettes.
Ouais. Exactement. En fait, le principe, c'est que nous, on a une vingtaine de cuvées entre du vin, donc vin rouge, vin blanc, mousseux, et puis également des bières de la Tôtre et de la menthe pastille de Giffard. Donc, on a des partenariats locaux. Hein. L'idée, c'est de faire connaître le terroir angevin aussi en termes de boissons, donc bières et menthe pastille sur Angers. Et puis, les vins, c'est des vins nigériens, donc de Loire, de bord de Loire, différents types de vins. Et donc le but, c'est de se dire, on a une vingtaine de cuvées. Donc quand on demande aux auteurs de venir lors du festival, on invite toujours les auteurs à nous demander, à nous dire s'ils peuvent venir. On préfère que ce soit ceux qui viennent qui nous fassent l'étiquette. Est-ce qu'ils sont prêts à faire une étiquette? Si oui, on leur donne les consignes qui sont assez précises pour simplement cadrer le type d'illustration. On peut pas tout mettre sur une étiquette de vin. Mmh. Il y a des choses qui sont interdites. Et ensuite, on travaille avec eux, on leur donne quelques mois pour nous fournir leur travail, et notre graphiste après derrière se charge de faire la mise en page. L'impression s'est envoyée chez un imprimeur spécialisé, et on envoie tout ça aux viticulteurs, aux vignerons, qui étiquettent leurs bouteilles, qui nous les livrent pour le festival, et donc nous, on les vend en propre lors du festival.
Bon,
le but, c'est de, remercier un auteur aussi en lui faisant découvrir la bouteille, évidemment, qu'il a signé.
Donc moi j'ai cité pas mal des auteurs qui effectivement sont invités au festival. Les auteurs qui vous tiennent à cœur parmi les invités, quels seraient-ils?
Alors moi, il y a évidemment Olivier Tadduc, hein, qui a fait l'affiche du festival de cette année.
Belle
affiche avec beaucoup de couleurs qui est vraiment très visible. Donc il y a Olivier Tadduc, il y a Didier Chris. Moi j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait sur différents ouvrages, notamment les légendaires dernièrement. Il y a, si on cite d'autres styles, il y a Christian Papy, qui a fait Derrière l'Église et maintenant qui fait les montres religieuses. On a Tim Montaigne, on a Nicolas Malpin qui a fait Golden City. Je pourrais faire une liste très longue. Ronan Touloat aussi, qui est quelqu'un d'important dans le paysage de la bande dessinée. Et puis après, on a plein de petits auteurs indépendants, enfin, beaucoup plus, on va dire, secret, c'est pas le terme, mais moins connus peut-être. L'ONAL, Mademoiselle Caroline.
On va dire plus confidentiel.
Confidentiel, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est le mot que je cherchais également. Voilà.
Dernière question. On voit pas de manga.
Oui, ça c'est un manque que j'essaye de corriger.
Parce que c'est difficile d'échapper au manga aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors nous, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que moi, j'en lis particulièrement énormément. J'ai autant de mangas que de bandes dessinées, c'est-à-dire plusieurs centaines chez moi. Donc j'en lis beaucoup. Je suis un amateur. On est plusieurs au sein du festival à être amateurs de mangas ou de comics, pour parler d'autres styles aussi, d'autres genres de bandes dessinées. La difficulté qu'on a, c'est qu'on est un festival associatif et que quand on invite un auteur, on le prend en charge entièrement. Donc, on paye son déplacement, on paye son logement, on paye son repas. Et que les auteurs de manga, même s'il y a des Français, ils sont relativement confidentiels encore. Ils sont parfois pas disponibles sur le créneau qu'on cherche. Et sinon, les auteurs de manga qui sont, on va dire, bankable et qui font bien du monde, c'est des auteurs qui sont pas de chez nous, malheureusement, la plupart du temps. Et qui coûtent très cher à faire venir. Et on n'a pas les moyens d'Angoulême ou de Saint-Malo pour faire venir des auteurs en résidence, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de travailler, notamment en étant en contact depuis 2 ans avec plusieurs auteurs de manga français pour voir, s'il y a des possibilités de les faire venir, travailler avec nous durant l'année pour des expositions, pour des événements. Et c'est vraiment un besoin et quelque chose qu'on cherche à améliorer pour la suite.
Eh bien, écoutez, Jean-Reno, je crois qu'on a fait un peu le tour cette 24e édition du festival en GVD. Moi, j'irai bien entendu sur place, parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui m'intéressent. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis, on va faire une pause musicale.
Parfait, merci beaucoup. Au revoir.
Mais sinon, je sais pas si j'irai en vacances là-bas, par ailleurs, pour des vacances.
Ah oui, pour des vacances,
par exemple.
Allô?
Mais tu vas me dire à la famille,
après, ça c'est chacun. Ça.
Allez, on va en Lorraine. Comment ils vont réagir?
Je me dépêche parce qu'il faut que j'appelle le
J'ai un accent qui sonne, dans ma bouche ça résonne. Et moi ça m'étonne quand on me dit à ton klaxon qui fait un drôle de son. Nous on dit plutôt klaxon. Alors je pose la question si on dit anglo-saxon. J'ajoute des articles devant les prénoms, c'est mécanique. Avec le bat c'est la lolo. On se dit ça guette comment que c'est gros.
Hey, salut gros, ça guette small.
Quand je dis que je viens de Lorraine, on sourit et on me dit que c'est la croix nazie, l'emblème de mon pays. Que j'ai bien fait de migrer, que c'est une zone sinistrée. Les usines ont fermé, le nucléaire est enterré. On se nourrit à la quiche et au pâté en croûte. On se dit ichlibidiche, on se baigne dans la choucroute.
Donc quoi?
Je sais pas, moi j'écoutais pas les
paroles. En passant par la Lorraine, avec tes sabots, arrête-toi sous un vieux chêne. Tu verras, elle est pas vilaine, la Mirabelle, c'est le soleil d'été qu'on n'a pas. Et c'est comme partout ailleurs, on finit par trouver le bonheur.
Mais alors c'est pareil, ça serait plus en Alsace qu'en Lorraine. Moi ce que j'ai compris, c'est que l'Alsace, ça serait plutôt rayon viticulture, et puis la Lorraine, rayon quiche, par exemple. Ils ont chacun...
Quand je dis que je suis dans les coins, on comprend pas bien, on me demande dans lequel. Moi, je vis en parallèle, dans un triangle isocèle, et je me laisse le choix de finir ou pas la soirée avec toi. On dit, hein, pour de quoi? On le répète à tout va, les verbes du premier groupe au singulier, on le fait sonner.
On le fait sonner.
On le fait sonner.
En passant par la Lorraine, avec tes sabots, arrête-toi sous un vieux chêne. Tu verras, elle est pas vilaine, la Mirabelle, c'est le soleil d'été qu'on n'a pas. Et c'est comme partout ailleurs, on finit par trouver le bonheur. Je reviens à Bouxières, je fais un bond en arrière. Y'a encore le tracteur qui passe à toutes les heures. Les vaches qui montent au champ, la voix du paysan qui insulte le bon Dieu et qui se plaint du temps pluvieux. Même si ça a bien changé, que les anciens nous ont quittés, qu'on n'a plus de PMU, mais maintenant on a Super U.
Mais c'est super ça.
En passant par la Lorraine, avec mes sabots, je vais voir la vallée de la Seille. Je prends par la main les capitaines, je m'arrête sous mon vieux chêne. Je regarde passer les 4 saisons, et c'est pas comme partout ailleurs, c'est simplement mon petit bonheur.
C'est simplement son petit bonheur.
Papa, papa.
Et puis alors c'est pareil, c'est bon, en géographie, moi j'étais pas champion. Mais une question comme ça, par exemple les Vosges, on les met où?
Oui,
c'est alors, en Alsace non, mais.
Ouais, non, mais c'est pas loin, hein. C'est pas loin.
Mais d'aucuns diraient que les Vosges sont en Lorraine, mais est-ce que c'est pas un peu. Je verrais ça plus bas.
Eh bien. bien voilà, c'est sur ces considérations géographiques de la mine de Léo qui a chanté La Lorraine, la terre de naissance de la chanteuse Léonore. Vous êtes bien sur Radio G, fréquence 101.5, et vous écoutez Entre les pages. Et aujourd'hui, on parle BD. J'ai accueilli tout à l'heure Jean Hainaut. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir l'un des auteurs invités du festival Angers BD. Bonjour Damien Geffroy.
Oui, bonjour.
Alors, vous, c'est la Mazémillon Connection, si je ne me trompe.
Oui, on peut dire ça. C'est vrai. Je fais partie de l'atelier Kawa qui est situé à Mazé. Oui. Et un des rares ateliers en milieu rural, donc on peut le souligner. Oui. Très actif en plus.
Oui, avec l'ami TM à la direction.
Oui, c'est ça, oui, qui est à la création de l'atelier, ça doit faire déjà maintenant plus d'une dizaine d'années, et il est toujours là, le grand timonier, et puis après on est quelques-uns à graviter autour de lui, alors des pros, des semi-pros, des amateurs en voie de professionnalisation, voilà, c'est tout un lieu, une joyeuse bande.
Oui, une joyeuse bande, et quand même, hein, pour être allé interviewer TM dans l'atelier même, il y a 2 ou 3 ans de ça, des conditions quand même de travail qui sont excellentes.
Oui, n'ayons pas peur de le dire, mais c'est vrai que c'est l'avantage peut-être du milieu rural où l'espace est un petit peu moins cher, et du coup on s'en prive pas, on a 3 grandes salles dans l'atelier, alors c'est la mairie qui nous cède les locaux en échange de menus services, je crois qu'on donne des cours pour les jeunes de la commune par exemple, et donc oui, on a un très bel espace, alors on est tous... resserrer dans une même pièce parce que on aime aussi un minimum de promiscuité, c'est pour ça qu'on se réunit tous ensemble. Du coup, on a une grande pièce de stockage à côté, puis une troisième pièce pour les cours.
Alors, vous faites pas dans la demi-mesure, hein, c'est du tir groupé chez vous. Hein. Depuis l'été, sont parus Inspecteur Balto aux éditions Grand Angle, Sunugal aux éditions Steinkiss, Les Cowboys sont toujours à l'ouest aux éditions Fluide Glacial. Vous êtes un stacanoviste, non?
Alors c'est vrai que je bosse pas mal, je vais pas dire le contraire, mais bon, c'est vraiment le hasard du calendrier, et je dois avouer que si j'avais pu dire donner mon avis là-dessus, j'aurais préféré que ça s'étale un petit peu plus. Ça fait une grosse série de promos, et puis ça permet pas forcément de déguster au maximum le toute la période de la sortie, qui est quand même un moment un peu particulier dans la vie de la BD, quoi. Donc j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais ma foi, je vais quand même pas m'en plaindre. Trois sorties, c'est vrai que c'est chouette, ouais.
Oui. Surtout que, alors je vais pas vous faire un affront, mais quand même je vais te dire que vous avez un âge pas très avancé, mais quand même un peu avancé. Et pour vous, la BD, c'est tout récent, il y a à peine 5 ans, je crois. C'est quoi? C'est une révélation?
Ah non, révélation non, puisque du coup, la BD, moi, c'est une passion depuis toujours. Et alors, c'est plutôt que je me suis pas autorisé à rêver quand j'avais une vingtaine d'années, que sous la pression du chômage, de tout ce dont on parlait à l'époque, j'ai choisi une voie qui était plus raisonnable. J'ai été dans l'éducation nationale en me disant que j'espérais trouver peut-être un petit peu de temps pour mener ma passion à côté, en parallèle. Seulement, le temps dans l'éducation nationale, c'est un mythe, hein, parce que c'est un métier qui prend énormément de temps, donc finalement, j'en ai pas eu du tout. J'ai fait ça pendant 15 ans, et puis par contre, c'est avec l'occasion d'un congé parental que là, j'ai pu me consacrer vraiment au montage d'un dossier, celui du village global avec David Desso. Ça a marché, donc c'est à l'occasion de cette sortie-là que j'ai fermé la porte de l'éducation nationale. Alors, pas complètement, je suis en disponibilité. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, j'ai franchi le pas. Là, ça fait 5 ans maintenant que je ne fais plus que ça. Oui,
on dira jamais combien les lois de progrès social, comme le congé parental, peuvent ouvrir des portes et sont nécessaires.
Ah bah là, oui, c'est un très bel exemple, parce que moi, j'ai une vie rêvée depuis, et un rêve auquel je n'osais pas croire avant, donc finalement, oui. Ouais.
Alors, vous êtes illustrateur. C'est vraiment votre activité. Vous travaillez donc avec des scénaristes. J'ai même découvert que vous travaillez avec des coloristes. Ça naît comment un projet pour Damien Geffroy?
Ça naît bien souvent d'une rencontre. Alors que ce soit Village Global avec David Lesseau dont je parlais à l'instant, tout a démarré de notre rencontre. Avec Olivier, c'est pareil, hein, c'est une rencontre qui s'est faite au préalable. Et ensuite, Olivier, voyant certains dessins, m'a proposé des histoires, qu'on propose des histoires ensemble chez Fluide Glacial.
Alors tout le monde n'est pas dans la confidence. Olivier, c'est Olivier Supio.
Oui, Olivier Supio, pardon. Oui, c'est vrai.
C'est le grand Olivier Supio, parce qu'on est obligé de dire ça.
Oui, parce que plus tôt dans l'émission, vous parliez un petit peu de toute la famille des auteurs angevins, donc oui. Voilà, c'est un nom incontournable, c'est vrai. Oui. Et donc là, c'est pareil, c'était une rencontre. Après, pas toujours, pour l'anecdote, l'inspecteur Balto, c'était plutôt un casting, en fait, parce que dans mon projet précédent, c'était les vases électriques chez Delcourt avec Relhomme, et on était parti pour 3 tomes, et finalement, à la fin du second, la série s'est arrêtée. Ce qui fait que je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau et puis en fait c'est sur les réseaux sociaux simplement que j'ai contacté Aurélien du coup de Ray, que je connaissais un petit peu, que j'avais déjà rencontré 2-3 fois et qui cherchait mais qui avait fait savoir sur les réseaux qu'il cherchait un illustrateur, donc je me suis proposé et c'est comme ça qu'est né ce projet là. Donc ce projet là est peut-être un petit peu à part, mais sinon c'est vrai que la plupart du temps c'est la rencontre d'abord et puis le projet ensuite.
C'est un travail, le travail sur Inspecteur Balto. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre dessin, bien sûr. J'ai apprécié le scénario et j'en ai pressenti les difficultés parce que, entre autres, il y a des flashbacks dans Inspecteur Balto. Alors Balto, hein, c'est le
un ancien
inspecteur de police qui va boire un coup aussi au Balto. Mais il y a des flashbacks. C'est compliqué de dessiner un personnage à 2 âges différents.
Pas forcément, pas pour celui-ci. Enfin, j'ai pas rencontré de difficultés sur ce personnage-ci parce que en fait, c'est une petite astuce de dessin. C'est vrai que quand le personnage vieillit, moi, ça fait partie de mes petits trucs, quoi. Je fais agrandir le nez, remonter légèrement le menton et le faire un peu plus prognate. Donc, voilà, c'est cette petite astuce-là et avec la perte des cheveux en plus, ça suffit à rendre le personnage un peu plus âgé. Donc non, ça n'a pas été le plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y avait un enjeu. Par contre, vous avez raison là-dessus. Et là, je souligne aussi le travail de Mathilde d'Alençon qui a fait les couleurs sur Balto, parce que du coup, c'était aussi pour elle un petit défi au niveau des couleurs de faire passer aussi cette idée du flashback à chaque fois qu'il apparaît.
Et puis, toujours dans Inspecteur Balto, alors là, il me semble, hein, vous allez me dire si je me trompe, mais vous utilisez, entre autres, un procédé cinématographique pour intégrer, faire comprendre ce flashback. C'est à la page 14, hein, il y a une bulle qui est très allongée, un dessin qui est très allongé, façon panoramique, cinématographique, et puis vous faites démarrer le flashback dans cette image-là. Le cinéma, ça peut être une source d'inspiration pour la mise en scène d'une BD?
Oui, bien sûr, oui. Je pense que je peux pas. Oui, c'est clair. Alors en plus, c'est vrai que pour l'inspecteur Balto, la mise en scène était partie intégrante de mon travail, puisque Aurélien, du coup, m'avait fourni un scénario écrit et il n'y avait pas, la mise en scène n'était pas faite et du coup, oui, c'est vrai que j'aborde ça un petit peu à la manière dont on pourrait le faire un cinéaste sans doute avec ces histoires de cadrage et oui, il y a clairement un lien de parenté, oui.
Non, et effectivement, alors après, moi, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée là parce que il y a une vraie complexité dans le scénario puisque on sait jamais qui est le coupable, hein. On avance au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, c'est jamais le bon en fait qu'on croit avoir deviné. Donc je trouve que c'est intéressant. En plus le scénario, c'est dans un monde particulier, le monde de la pornographie soft un peu, enfin les vidéos pornographiques et autres, mais sans rapport avec les clients entre guillemets. Mais j'ai trouvé le sujet, la manière, et puis votre graphisme, alors qu'on identifie bien puisque on le retrouve dans l'autre bande dessinée qui est sortie pratiquement dans la même période, qui est Sunugal. Là, c'est paru chez Steinkiss. Alors, est-ce qu'on peut dire que Sunugal, c'est l'acte 2 de Village Global?
Oui, on peut dire ça. C'est effectivement une suite qui n'est pas une suite. Alors, sans en être une, parce qu'il n'y a pas la nécessité de lire le tome 1 pour lire le tome 2, mais étant donné qu'on retrouve les mêmes personnages et tout ce petit jeu entre eux qui est déjà installé lors du tome 1, oui, c'est clairement la suite quand même, quoi. Ouais. Le sujet est complètement différent, par contre, donc c'est pour ça que les deux tomes sont quand même clairement indépendants.
Oui, oui, oui. oui. Bah oui, parce que là, sur le tome, enfin sur Sunugan, on est vraiment, enfin ce qui est, comment dire, j'allais dire étudier, c'est peut-être pas le bon terme, mais ce qui est, vous vous plongez au Sénégal directement. Là, on est au Sénégal, et là, vous avez, ça vous donne l'occasion, enfin ça donne l'occasion à vous et aux scénaristes, ça donne l'occasion de brosser. Tout ce que peut être le côté passionnant de ce pays, les rapports très ambigus avec avec la France, hein, parce que vous abordez tout, quoi, l'hôtellerie, là à nouveau on retrouve la perversité des blancs, et là je vais utiliser le terme vraiment volontairement, des blancs par rapport aux jeunes femmes sénégalaises. Enfin, c'est vraiment c'est une plongée dans le Sénégal. Hein. Moi, je ne suis jamais allé au Sénégal, je n'ai que des échos, et je peux dire que je m'y suis quasiment retrouvé, quoi. Là, c'est une rencontre avec David Lesso, hein, ses deux albums, Village Global et Sunugal.
Oui, David, qui est chargé de recherche au CNRS, donc il connaît bien son sujet, parce que du coup, il travaille sur l'immigration internationale depuis toujours, et d'ailleurs, de son tout début de carrière, sa thèse, il l'avait faite à Dakar. Alors, j'ai plus le thème exact de sa thèse, mais en tout cas, c'est un tombeau du Sénégal. Donc, après le premier tome Village Global, où on parlait des migrations, et notamment au niveau de nos campagnes, c'était en fait un deuxième... deuxième sujet de prédilection qu'il a voulu aborder dans le tome 2, quoi.
Alors, avec, bien sûr, le côté universel de Mazémillon, hein, puisque les personnages sont de Mazémillon, et on imagine bien que c'est des personnages idéaux typiques.
Oui, ben c'est le Village Global, quoi.
Alors, l'action se déroule au Sénégal. Ça vous a obligé à y aller pour des repérages?
Oui, après dire, on a voulu faire l'économie d'un voyage, c'est-à-dire que David est quand même, comme je disais, il connaît bien, il va souvent tous les ans depuis plusieurs années, et donc il y avait, en termes de contenu, il y avait largement de quoi faire. Seulement quand on a commencé à travailler sur le projet, il y avait quand même des choses qui coinçaient un petit peu, moi, dans mon approche, pardon, des paysages sénégalais que je connaissais que par les cartes postales ou les photos que David m'avait transmises, il y avait quand même plein d'impairs, en fait, et David m'a rapidement fait comprendre que le mieux ça serait quand même d'y faire un tour. Et j'avoue que, alors, j'ai eu un petit peu mal au cœur parce que j'ai une conscience écologique assez prononcée, et de faire un voyage de temps d'heure pour quelques jours passés là-bas, on a passé une semaine, une dizaine de jours, je sais plus, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais je dois dire que pour l'œuvre, enfin pour le bouquin, c'était vraiment essentiel, et ça a tout changé, et dans aussi ma façon de travailler, et dans le plaisir que j'ai eu à faire ce travail, parce que du coup, d'y être allé et de venir plonger après pendant quelques mois à leur dessiner tous ces paysages, c'était un retour là-bas, enfin ça avait rien à voir en termes d'inspiration, donc oui, il a fallu y aller, et j'ai aucun regret finalement d'y être allé, en fait.
Et puis comme les frais de production étaient supportés par votre maison d'édition, c'était plus facile.
Alors j'aimerais pouvoir vous dire que c'est le cas, mais sans vouloir casser le chic sur Stenkiss, non, on a demandé, et ça n'a pas été accepté, donc il a fallu trouver d'autres financements, mais on a fait autrement.
Alors, et puis le troisième album qui sort. Alors là, j'ai parlé d'Olivier Suppiot et du grand Olivier Suppiot tout à l'heure. C'est Les Cowboys sont toujours à l'Ouest, aux éditions Fluide Glacial. Ce projet, il est né comment? C'est Olivier qui est venu avec ce scénario un peu frappadingue, ou c'est vos échanges entre vous deux qui ont fait naître ce projet?
En fait, c'est un projet qui fait un peu suite à un premier tome qu'on avait sorti ensemble aux éditions, enfin chez Fluide Glacial, et avec des histoires qui est une compilation d'histoires qui était parue dans le magazine, qui traitait de science-fiction. Et à l'issue de ce premier tome qui s'appelait les déboires intersidérants de Tage le survivant, on est parti avec Fluide, en discutant un peu avec l'équipe de Fluide, on a voulu proposer des histoires mais dans un autre univers, et c'est là qu'Olivier a proposé le western, qui est un univers rempli de clichés, avec beaucoup d'amateurs et beaucoup une culture commune qui est vraiment très riche, et dans cet univers-là, et du coup on est parti sur cette piste-là, et puis les histoires sont publiées dans le magazine, donc elles paraissent petit à petit, et c'est pour ça que l'album est sorti d'ailleurs au courant de l'été de cet été, c'est que voilà, ça y est, on avait le nombre d'histoires requis pour pouvoir sortir un album, donc il est sorti à ce moment-là. Mmh. Mais finalement, c'est des histoires qui sont parues mensuellement dans le magazine, et c'est clairement sorti de la tête d'Olivier.
Alors, il y a une question que je me suis posée quand on voit la couverture de cet album-là. J'espère que je vais pas vous vexer, bien sûr. On est dans les paysages de Lucky Luke.
Ah oui, oui. Bah, je sais pas. Vous avez... pas me fixer du tout, non, c'est une belle référence, je pense qu'on est complètement dedans,
oui.
Et c'est vrai que c'est le plaisir qu'on a eu d'ailleurs tous les deux, parce qu'on s'est amusé comme des petits fous sur cet album-là, c'est de jouer avec tous ces codes, quoi, tous ces, enfin, je sais pas si je parle d'un indien, des tuniques bleues, du cow-boy, du joueur de piano dans un saloon, oui. De la danse de French Cancan, enfin, voilà, c'est plein d'images qu'on a, on a déjà tous des anecdotes presque avec, quoi, donc, merci Maurice pour tout ce qui a été fait au niveau de Luc, parce que c'est vrai qu'on exploite tout ça et on a encore beaucoup à faire, je pense.
Et j'imagine qu'il n'aurait pas été choqué de voir Jolly Jumper à l'envers dans une arche dans le désert.
Bah, je suis pas plus débile que son cheval qui parle. Hein. Oui. Enfin, on sait pas bien, en fait, hein, s'il parle vraiment. Je crois qu'il y a toujours eu...
Oui, il y a un doute. Il y a encore... ça mérite étude. C'est pas intimidant de travailler avec quelqu'un comme Olivier Suppiot, qui est aussi un dessinateur?
Alors, par rapport au côté dessin, vous voulez dire quoi, du coup?
Quand on est soi-même dessinateur, Olivier, il a une technique, enfin, il a une, comment dire, un graphisme qui est quand même assez particulier. Ça vous...
Oui, c'est vrai que c'est intimidant. Je crois qu'il a eu un grand prix du dessin au Festival d'Angoulême, par exemple. Donc c'est quand même pas rien. Ouais, non, c'est sûr. Mais il est aussi, il combine ça avec une grande bienveillance, énormément de bienveillance et beaucoup de gentillesse, qui fait que il me met en confiance. J'en arrive presque à croire que mon dessin lui plaît. Enfin, il serait là, il dirait oui. Mais je veux dire, j'en arrive presque à croire que mon dessin a quelque chose, en fait, à apporter que lui n'a aura peut-être pas dans ce qu'il voudrait faire, quoi. Enfin, bon, bref, ça pourrait être intimidant, mais pas avec Olivier, qui est
un homme, qui est de toute façon un homme charmant.
Et puis qui sait bien me laisser ma place, dans le dessin. Et au contraire, moi je sais qu'il suscite beaucoup de choses, en fait, parce que contrairement à Aurélien Ducoudray, dont je parlais tout à l'heure, avec un scénario qui était sur une base écrite, là chez Olivier, on a déjà des mises en scène qui est faite. Olivier Suppiot fait déjà une mise en scène sur ce qu'il me propose pour les histoires pour film. Et donc, j'étais en train de dire oui, qu'il me laissait ma place. Bon, j'ai perdu mon propos, mais bon... je voulais dire qu'il m'inspire beaucoup de choses, en fait, par ses premiers dessins, ses premières poses. Ses personnages sont déjà beaucoup très campés, en fait, quoi, alors qu'ils sont très simples. Ça reste des bonhommes patates. Hein, c'est un dessin très, très rapide, mais il y a déjà quelque chose qui est déjà en place. Donc, travailler comme ça, c'est particulier et c'est un plaisir différent.
Eh bien, écoutez, Damien Geffroy, j'ai été ravi d'avoir cet échange. On va être obligé de s'en tenir là. Vous voyez, ça n'a pas été si terrible que ça, cette interview. je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Et bonne fin de journée à vous aussi.
Et puis bon festival, au revoir.
Oui, au revoir.
The art of losing is hard to master. Is it really true? Moving towards a new life with a
art of losing is hard to master. Despite the flowing river, your loss is a disaster. I know every new day is a gift, but my memories make me drift. I know every new day is a blessing, but your shadow is always gliding.
Chantait Broken Heart et cet extrait du tout nouvel EP du groupe intitulé Go Ahead. Vous êtes toujours sur Radio G, que vous pouvez aussi écouter sur le site www.radio-g.fr. Et j'entends déjà le galop des chevaux, c'est Julien qui s'annonce pour sa chronique pour une poignée de western.
Pour une poignée de western. Howdy Luc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman de Glendon Swarthout, Homesman. Il avait déjà été publié en 1988 aux presses de la Cité sous le titre Le chariot des damnés, un titre imagé loin de celui original en anglais, mais qui résumait très justement l'intrigue concoctée par l'un des maîtres du western américain. À dire vrai, c'est même le dernier écrit par un auteur qui s'était spécialisé aussi dans les fictions policières et qui a été adapté à 8 reprises par Hollywood. Alors, aujourd'hui, on se rappelle son adaptation par Tommy Lee Jones de ce roman. Mais avant, il y a eu ceux de Cordura, de Robert Rosen avec Gary Cooper et Rita Hayworth, et aussi Le Dernier des Géants de Don Siegel avec John Wayne et Lorraine Bacall, excusez du peu. Mais pour en revenir au roman incriminé, on y découvre au début un certain Briggs, déserteur d'une compagnie de cavalerie de l'armée américaine. C'est un homme à tout faire, surtout les basses œuvres, pour un avocat véreux qui entend spolier les colons négligents du droit du sol. Mais la traversée qu'il va effectuer va surtout s'apparenter pour lui à une véritable quête de sa morale. Il va en effet convoyer un chariot, mais à rebours de ce qu'on attend d'un western. C'est-à-dire que le chariot va partir des contrées inhospitalières pour revenir à la civilisation. À son bord, plusieurs femmes, toutes meurtries par ce qu'elles ont vécu. Jugez plutôt. Théoline Belknap a tué son enfant à peine né. Hedda Petzke a failli à plusieurs reprises assassiner son mari. Gro Svensson a été retrouvé sous son lit des cadavres de loups dans la chambre. Arabella South a vu tous ses enfants mourir de la diphtérie. Ces 4 femmes ont en commun d'avoir suivi leurs maris respectifs vers l'ouest à la conquête d'un territoire qui ne les a pas épargnés tant physiquement que psychologiquement. Elles ont perdu la raison soudainement, et c'est dans un fourgon, pieds et poings liés, qu'elles repartent vers la civilisation où de bonnes âmes vont se charger des leurs égarés. Ces femmes et ce chariot vont être la rédemption de Briggs. En ce sens, le retour vers Hébron est tout symbolique. Surtout qu'en cours de route, après des passages hallucinants ou dans la froideur de la nuit, il est sujet aux attirances des unes et des autres. Et puis, il y a Mary B. Cuddy, celle qu'il a embauchée. C'est une femme énergique et pugnace, mais qui va finir par se pendre alors que Briggs va se retrouver tout seul avec quatre femmes sans défense qu'il serait très facile d'abandonner à leur propre sort. D'autant plus que parmi les affaires de Mary B., Bix va découvrir l'argent qu'elle lui avait promis en échange de son aide et qu'elle avait juré avoir transmis par télégraphe à Alta Carter, femme d'un révérend à qui il devait remettre ses quatre femmes. Briggs, lui, va faire fi de son amoralité, et non immoralité comme le pense à tort Mary B. Cuddy. Parce que, au contact de ces femmes, c'est à l'Amérique tout entière qu'il se confronte en à peine 300 pages. Véritable road movie ou road book à travers des paysages désertiques qui hébergent des arnaqueurs à grande échelle, des bandits de petits chemins, des indiens en quête de chevaux et des colons aux idéaux pas encore corrompus, Homesman nous révèle que c'est l'isolement et l'abandon qui créent la folie. Une folie qui touche le monde de la construction. Il y a une halte dans une ville fictive dont le but est de voler l'argent des petits épargnants en quête d'un retour rapide sur investissement. De la finance, une banqueroute donne en effet une fin atypique au roman, et de la religion, puisque dans un monde religieux dominé par les hommes et les Quakers, c'est une femme qui prend en main la destinée d'autres femmes jusqu'à un fleuve et la ville d'Hébron. Alors bien sûr, le suicide de Mary B, associé au fait que les damnées de la Terre sont toutes des femmes, pourrait faire penser que le roman s'appuie sur une inégalité des sexes. Ce serait faire un raccourci éhonté. Glendon Swarthout dresse en quelques courtes pages le portrait de quatre femmes que l'histoire et la vie n'épargnent pas. Homesman, en ce sens, est un roman sur la conquête de l'âme faite par ceux qui ont l'honneur à l'Ouest. Un western rythmé et stylisé qui confirme les grandes qualités de son auteur, Glendon Swarthout. Cela valait bien une nouvelle traduction et l'adoption de son titre américain chez Guildmeister. Alors, n'hésitez pas à dégainer votre imaginaire et à entrer dans le livre d'histoire.
Encore une belle découverte, Julien, d'un genre toujours un peu exotique pour nous, Européens, mais qu'un roman d'un genre où c'est la virilité qui est majoritairement mise en avant, choisissent de rappeler que les femmes ont agi dans cette époque et à cet endroit, cela ne fait vraiment pas de mal. Pour conclure cette émission, quelques informations sur le monde des livres en Anjou qui est fort riche. Le jeudi 16 novembre à 19h30, dans la librairie Les Nuits Bleues, 21 rue Maillet à Angers, discussion autour du livre-jeu de science-fiction « Les meutes du futur » publié aux éditions Goater. Discussion animée par le comité des bons conseils. Moi, j'ai prêté une oreille à cette rencontre parce que je suis curieux de voir un peu comment ça se passe dans la petite rue Maillet à Angers les 18 et 19 novembre prochains au château de la Perrière à Avrier, salon littéraire des auteurs, des artistes. Plus de 60 autrices et auteurs invités au programme de table ronde avec quand même la participation de Roselyne Bachelot et Annie Guichard, des ateliers d'écriture et des signatures. Moi, je me demande quand est-ce que dans un salon, il n'y a pas de signature. Vous pourrez y retrouver aussi Bruno Luongo, l'animateur de l'émission Harvest. Il est aussi dans une autre vie auteur et il dédicacera son nouveau livre « Disparition » à Bryce Canyon. Philippe Maté, le responsable du Bibliothéâtre, rend hommage à Christian Bobin à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. Le dimanche 19 novembre, justement au salon littéraire des auteurs, des artistes dont je viens de parler, il fera une lecture de morceaux choisis, picorés dans l'œuvre de Christian Bobin, et il recommencera le jeudi 23 novembre à 19h à l'auditorium de l'abbaye Mauriste de Saint-Florent-le-Vieil. Et puis vous rappelez que le numéro 45 de la revue Dissonance est en kiosque, et en librairie. Le thème, c'est toxique, avec en sous-titre ce vers de Rimbaud, « J'ai avalé une fameuse gorgée de poison ». Encore beaucoup de belles contributions, parfois dérangeantes, mais comment pourrait-il en être autrement avec un tel sujet ? Je relève entre autres celle de Marc Graciano. Vous savez, l'auteur de Joanne qui est publié aux éditions du Tripode. Comme à son habitude, en une seule phrase, il nous fait feuilleter le livre des plantes à ne pas mettre entre toutes les mains. Et c'est vraiment tout à fait étonnant comme texte. L'illustration de la revue, comme d'habitude, a été confiée à une artiste. Pour ce numéro 45, il s'agit de Armelle Le Golvan. Son dessin figuratif est très très détaillé et il n'est pas sans rappeler celui de Christian Bruel, un dessinateur que j'adore, qui avait écrit il y a très très longtemps l'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Et puis en fin de revue, toujours des rubriques passionnantes, dont l'une, Disjonction, qui aborde le livre de Constance Debré intitulé « Non ». Sous quatre regards différents, et ça ne m'a pas là aussi laissé totalement indifférent. Au cours de cette brillante émission, vous avez entendu la mine de Léo qui a chanté la Lorraine et Emily qui a chanté Broken Heart. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, eh bien, ce sera le mercredi 22 novembre à 17h. Nous serons à Cholet. Enfin, l'émission aura été enregistrée à Cholet, dans la librairie Le Passage Culturel, avec une rencontre avec Antoine Filias, auteur de Plexiglas, un étrange livre dont l'action se déroule justement à Cholet, et c'est dans le cadre de Lire en circuit court organisé par Mobilis, région Pays de la Loire. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI, et puis Pierre Benoît et toute sa fine équipe pour le magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant,
in 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.